Mercredi 13 mai 2015, auditrice, auditeur de la radio Dragland, bonsoir. Dès ses premières applications, l'énergie nucléaire fut marquée par la dualité, nouvelle source d'énergie abondante. Elle était aussi le symbole d'un immense pouvoir de destruction. Les applications civiles ne virent d'ailleurs le jour que quelques années après l'explosion de la première bombe. Son incroyable capacité en termes de production électrique semblait alors redorer son blason, surtout lors des crises pétrolières des années 1970. Mais l'incident de Tchernobyl attisa les convictions des antinucléaires et sema le doute sur le bien fondé de son utilisation. Pour débattre du nucléaire dans le monde, j'ai avec moi en studio une jeune équipe composée de Sarah. Sarah, bonsoir.
Bonsoir Sylvie.
De Lotte. Lotte, bonsoir.
Bonsoir Sylvie.
De Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, bonsoir.
Et bonsoir Sylvie.
Et de moi-même Sylvie Nda. Dans l'émission Tour du Monde, consacrée au nucléaire, nous écouterons d'abord un reportage de Sarah et de Jean-Baptiste sur Fessenheim. Nous aborderons également par la suite le nucléaire en Allemagne, l'accident de Tchernobyl et bouclerons le débat par le nucléaire en Afrique. Pour vous, nous avons également préparé une playlist. Alors Sarah, un aperçu sur la playlist.
Oui, alors c'était très intéressant. J'ai fait beaucoup de recherches et j'ai pu découvrir que l'énergie atomique a beaucoup inspiré les artistes dans le monde entier. Donc les chansons que nous les allons écouter ce soir sont plutôt des musiques qui se positionnent contre le nucléaire. Après, lors de mes recherches, j'ai découvert plein de choses différentes. Par exemple, des chansons de la guerre froide contre les Russes qui avaient peur de l'énergie atomique, ou des symphonies, ou de la musique expérimentale japonaise. Donc, je me réjouis de partager ça ce soir avec vous. Ta la ti 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 dum ta ta ti ta ti ta ta ti dum. Some men with brains in their cranium took a piece of uranium. They did what other men couldn't do. They split the atom right in two. Now it's up to the people to crusade to see that no more bombs are made. That this straight force should only be used for peace and democracy. Ta ta ti ti dum ta ta.
Comme je vous le disais tout au début, Sarah et Jean-Baptiste ont préparé pour nous un reportage sur Fessenheim que je vous demande d'écouter.
C'est avec cette revendication que se sont rassemblées 3 000 à 4 000 personnes le 26 avril dernier devant la centrale nucléaire de Fessenheim à l'occasion du 29e anniversaire de l'accident de Tchernobyl. La centrale qui a été mise en service en 1976 est la plus ancienne centrale en activité dans le pays.
Et après, bon, on connaît les problèmes liés à la centrale, puisqu'elle est située sur une zone quand même qui est sismique, c'est avéré, en bordure du canal donc, qui file sur Strasbourg, et qui est un endroit où justement il y a des possibilités aussi de catastrophes. En plus, on sait qu'au niveau de la centrale de Fessenheim, il y a une faiblesse au niveau de la cuve, qu'il y a très peu de séparation avec les nappes phréatiques dessous, donc c'est une centrale qui pose énormément de problèmes.
À cause de nombreux problèmes de sécurité et de la pression populaire, François Hollande a promis de la fermer avant la fin de son mandat. Le président de la République française était lui aussi en Alsace ce dimanche pour signer à Strasbourg le nouveau contrat de plan État-région de l'Alsace pour la période 2015-2020. Ce plan prévoit des investissements importants et mentionne même la transmission transition énergétique. La fermeture de Fessenheim n'y est pourtant pas mentionnée.
De toute façon, on est dans des réponses contradictoires au niveau du gouvernement, parce que d'un côté, Hollande s'est engagé à fermer Fessenheim avant la fin de son septennat. De l'autre côté, son ministre de l'Environnement, Ségolène Royal, dit qu'on ne fermera aucune centrale tant qu'on n'en mettra pas une autre en route. Donc, comme on sait très bien que l'EPR de Flamanville n'est pas du tout prêt à fonctionner, on se pose beaucoup de questions à ce sujet. Donc ça paraît très 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 flou, cette politique de l'énergie en France.
Il ne serait pas donc pourtant difficile de justifier politiquement la fermeture de la centrale si besoin. Même l'Agence internationale de l'énergie atomique recommande l'arrêt de toutes les centrales situées dans des zones sismiques depuis l'accident de Fukushima, ce qui est le cas de la centrale alsacienne.
Fessenheim, Fermont, Fessenheim, Fermont, Fessenheim, Fermont, Fessenheim, Fermont, Fessenheim, abschalten jetzt, 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 abschalten jetzt.
Il semblerait pourtant que la majorité des personnes participant à la manifestation sont déjà des vétérans du mouvement antinucléaire. Nous avons demandé à des jeunes manifestants pourquoi la contestation du nucléaire semble être un sujet dominant par ce qu'on aime à nommer les seniors.
C'est difficile à dire, hein, mais je pense que c'est un problème dans la société en général. On a vraiment du mal à motiver les personnes plus jeunes. Mais aussi, je pense, c'est parce que dans l'éducation qu'on donne à nos enfants ou bien aux gens de notre âge, on est quand même assez fermé. Il y a des idées reçues et je pense que ça prend du temps aussi de construire ces réflexions là-dessus. Et bon, vous voyez ici aujourd'hui, on est quand même plutôt jeunes, hein, on a tous moins de 30 ans. Donc, faut pas perdre espoir. Je pense que la relève est là et il y aura toujours, je pense, c'est quelque chose qui se met sur la durée. C'est normal qu'il y ait des personnes plus âgées ici, mais je pense qu'il y a aussi des jeunes qui se mobilisent. Simplement, ils n'ont peut-être pas encore toutes les cartes en main pour comprendre le nucléaire. Puis c'est vrai que l'État essaye un peu de cacher tout ce qui est lié au nucléaire, donc voilà, difficile.
D'après certains des manifestants, il semblerait malheureusement que la population ne se mobilise que suite à des accidents. Après le choc de Tchernobyl, au début des années 1990, le mouvement anti-atomique s'est essoufflé durant la première décennie des années 2000. Mais depuis Fukushima, en 2011, on assiste à une renaissance de la protestation. Si certaines choses ont changé et certains pays tels que l'Allemagne auront officiellement tourné le dos au nucléaire d'ici 2022. Les problèmes restent et resteront les mêmes. Le déficit de sécurité et la question de la gestion des déchets. En France, la question de l'attachement au nucléaire semble être avant tout une question de prestige et de puissance.
Heute ist ausschließlich Fessenheim, aber auf der ganzen Welt haben wir die Problematik. Und ob es ist der Uranabbau oder was jetzt auch immer.
Mais après, il y a aussi des polémiques au niveau des éoliennes, au niveau des panneaux solaires. On ne sait pas en fait. Et moi-même, je suis très peu informée. Et j'aimerais bien qu'on trouve une réelle solution, une alternative.
Si la question de pour ou contre le nucléaire était claire pour les manifestants rassemblés ce jour-là, celle des alternatives paraît être encore ouverte.
Und wenn ihr den und den Wohlstand wollt, hat der Professor, ich glaube, dem hat geheißen, müsst ihr das und das in Kauf nehmen. Wir wollen ja nicht jeden Wohlstand und um jeden Preis sowieso nicht.
Fessenheim,
écouter Dreckland et cette émission, c'est bien sûr Tour du Monde. Et nous ne pouvons pas faire le Tour du Monde sans parler de l'Allemagne. Alors Jean-Baptiste, pourquoi la sortie du nucléaire au sein de certains pays, notamment l'Allemagne, tandis que les autres pays comme la France maintiennent leur production de l'énergie nucléaire?
Oui, avant de revenir à ta question, nous allons d'abord définir ce que c'est que sortie du nucléaire. Et là, la sortie du nucléaire civil est l'arrêt de l'utilisation de l'énergie nucléaire pour la production d'électricité. Elle comprend principalement l'arrêt des centrales nucléaires. Et la sortie du nucléaire civil a été décrétée le 14 juin 2000 par le gouvernement allemand. Et fin 2010, Angela Merkel a fait voter un prolongement de 12 ans en moyenne de la durée d'exploitation des réacteurs allemands. À la suite de l'accident nucléaire de Fukushima, les 8 plus anciens et centrales ont été arrêtées. Et puis le 29 mai 2011, la coalition gouvernementale a annoncé sa décision de fermer toutes les centrales nucléaires d'ici 2022. En juin de cette année, la centrale de Grafenrheinfeld, excusez-moi le nom, elle sera arrêtée, amorçant ainsi le processus de fermeture des 9 centrales restantes. Pourtant, en 2013, le pays se situait au 12e rang des pays producteurs d'électricité nucléaire dans le monde en nombre de réacteurs en activité et au 9e rang pour la puissance nucléaire installée. Et cette production d'électricité d'origine nucléaire en Allemagne s'est élevée en 2013 à 15% de la production d'électricité dans le pays.
Alors, est-ce que le gouvernement allemand a d'autres stratégies pour produire de l'énergie?
Oui, il faut dire que sortir du nucléaire ne veut pas dire croiser les bras et laisser le pays dans l'obscurité. Le gouvernement allemand s'investit beaucoup dans d'autres plans comme l'énergie renouvelable. Aussi, il faut noter que l'énergie renouvelable, la première source pour 2014, était la biomasse, et qui inclut le gaz naturel. Ensuite, il y a l'énergie éolienne et enfin l'énergie solaire. Il y a aussi les centrales au charbon, qui sont d'ailleurs les plus polluantes parce qu'elles produisent assez de CO2 et les gaz polluants. Il y en a 13 centrales au charbon et qui sont prévues pour être construites. Et cela soulève les questions comment l'Allemagne pourra réussir à réduire ses émissions de CO2 de 40% d'ici 2020 comme elle est engagée à le faire.
Et quelles sont les questions qui restent ouvertes à la sortie du nucléaire en Allemagne?
Oui, la question du sortie du nucléaire pour le gouvernement allemand, il faut alors détruire toutes les centrales et il faut encore la mettre plus de il faut encore là mettre plus de 19 milliards d'euros pour démonter les 17 centrales du parc nucléaire allemand. À cela s'ajoute donc la question du stockage des déchets toxiques et mortels qui restent non résolus.
Merci pour votre intervention. L'émission se poursuit, mais avant ça, écoutons ceci. Une émission émission avec une équipe très dynamique. Alors Jean-Baptiste, qu'est-ce qu'on peut retenir concrètement du nucléaire allemand?
Oui Sylvie, il faut dire que malheureusement, il faut dire que les entreprises productrices de l'énergie nucléaire encaissent plusieurs milliards d'euros par an. L'État, lui, paye le démontage des centrales et le stockage des déchets avec bien sûr l'argent public.
Alors Sarah, je suis à vous maintenant. Comme vous avez pu l'entendre dans le reportage, le 26 avril, c'était la commémoration du 29e anniversaire de l'accident de Tchernobyl. Alors Sarah, de quel accident s'agit-il?
Oui, effectivement, Tchernobyl, cela représente encore et toujours le pire accident nucléaire de toute l'histoire, le seul avec Fukushima à avoir été classé au niveau 7, donc au dernier échelon de l'échelle internationale de classement des événements nucléaires.
Mais qu'est-ce que cela représente, ce niveau 7 exactement?
Alors, cette échelle sert, vous l'aurez compris, à mesurer la gravité d'un incident ou d'un accident nucléaire civil. Elle est définie en trois zones d'incidence. Les défaillances de la défense en profondeur, donc ça c'est le système de la centrale. Les incidences hors du site et les incidences sur le site. Donc les événements de niveau 1 à 3 sont qualifiés d'incidents et ceux des niveaux supérieurs de 4 à 7 sont qualifiés d'accidents. Mais cependant, ce qu'il faut dire, c'est que les critères de classification sont très subjectifs et permettraient en fait de classifier différents événements différemment selon qui les évalue. Et bien que l'échelle ait été créée juste après Tchernobyl dans le but d'informer les médias et le grand public sur la gravité des accidents, lorsqu'on regarde l'accident qui s'est passé en 86 en Ukraine, le rejet des contaminants dans l'environnement a atteint 100 fois le seuil de déclenchement du niveau 7. Mais comme l'échelle est plafonnée, on n'a pas pu l'extrapoler. Donc en fait, c'est juste un petit exemple, comme beaucoup d'autres, de à quel point les lobbies du nucléaire ou les organisations internationales qui produisent des rapports sur le nucléaire, souvent, ne sont pas plus en fait que des relais de la propagande pour le nucléaire qui dédommage les incidences de cette technologie.
Le 26 avril 86, une date que beaucoup n'oublient pas. Est-ce que vous pouvez nous dire exactement ce qui s'est passé ce jour-là?
Oui, alors ce qu'on appelle la centrale de Tchernobyl, c'est en fait l'installation de la centrale Lénine qui se trouve au nord-ouest de l'Ukraine. Donc, pour situer à 16 km de la frontière du Bélarus, à 110 au nord-ouest de Kiev et à 670 au sud-est de Moscou. Donc la centrale était composée de 4 réacteurs en fonction et de 2 en construction, dont les 2 premiers ont été mis en marche en 1977. Donc l'accident, c'est l'explosion du réacteur numéro 4, s'est produite lors d'un exercice qui avait pour but de prouver que la centrale pouvait être relancée d'elle-même à la suite d'une perte totale du réseau électrique. Donc sans entrer dans les détails, ce serait une concentration de vapeur provoquée lors de l'exercice qui aurait soulevé la dalle de béton qui protégeait le réacteur et enclenché une réaction en chaîne qui a mené à la fusion du réacteur. Donc ça a libéré des gaz et des particules hautement radioactives dans l'atmosphère. Donc oui, résultat d'erreurs commises par les opérateurs ainsi que du non-respect des règles de sécurité par le directeur de la centrale.
Parlant de conséquences, Sarah, quelles furent les retombées immédiates de cet accident?
Donc après l'explosion, le réacteur a pris feu et en réaction, le directeur de la centrale appellera simplement les pompiers. Donc ceux-ci, venus de Pripyat, la ville située à 3 km de la centrale, interviennent sur les lieux sans équipement particulier. Et cependant, les matières nucléaires ne peuvent pas être éteintes avec de l'eau. Donc ces pompiers gravement irradiés seront évacués et mourront pour la plupart dans les jours suivants. Finalement, au bout de 2 semaines, l'incendie put être maîtrisé grâce à un bal d'hélicoptère qui déversa des tonnes de sable, de plomb et d'argile dans le réacteur.
Mais est-ce que cela a vraiment résolu le problème?
Malheureusement non. Donc dès l'explosion et dans les mois qui suivirent, 600 000 à 900 000 ouvriers seront mobilisés de toute l'Union soviétique pour nettoyer la centrale et le terrain environnant. Ces travailleurs ont été surnommés les liquidateurs. En gros, leur tâche consistait en l'évacuation des matériaux hautement irradiés. Donc par exemple, c'est eux qui ont été chargés de déblayer le site de la centrale, de détruire et d'enterrer des villages entiers en Ukraine et en Biélorussie, ou alors de tuer les animaux dans les forêts environnant Tchernobyl pour éviter la propagation des poussières radioactives. C'est ces mêmes liquidateurs qui furent chargés de la construction d'une structure de métal qu'on nomme sarcophage et qui sert à confiner le réacteur. Comme ils n'ont pas été équipés de combinaisons de protection, la plupart sont morts des suites directes de la surexposition à des taux de radioactivité élevés ou ont développé des cancers. Dans ce contexte, il a aussi été fait appel à des robots télécommandés, français, suisses et allemands, mais ceux-ci sont tous tombés en panne à cause des niveaux de radiation exceptionnellement élevés.
Votre intervention m'intéresse beaucoup et je sais que vous avez encore beaucoup de choses à dire sur Tchernobyl, mais avant, écoutons ça. Alors Sarah, tu parlais tantôt de l'envoi de robots français et suisses. Comment s'est passée la collaboration internationale dans le cadre de la catastrophe de Tchernobyl ?
En fait, au départ, les autorités soviétiques ont totalement minimisé l'incident, ce qui a aussi retardé l'évacuation des populations vivant sur le site. Donc cette évacuation ne commença que l'après-midi du 27, 40 heures après l'accident. Au départ, il fut annoncé que le déplacement ne devait durer que quelques jours et il sera définitif. Au total, donc de 86 à 2000, plus de 350 400 personnes furent évacuées et relogées hors des zones les plus contaminées d'Ukraine, de Biélorussie et de Russie. Tout ceci eut lieu dans le plus grand secret et la nouvelle du désastre n'atteignit les médias occidentaux que le 28 avril, lorsque des taux anormalement élevés de radioactivité furent mesurés à la centrale de Forsmark en Suède.
Et ce nuage radioactif qui a traversé l'Europe, de l'Ukraine à la Suède, quel pays a-t-il touché particulièrement ?
Évidemment, tous les pays n'ont pas été affectés de manière pareille par la catastrophe de Tchernobyl. Le pays de loin le plus touché fut la Biélorussie. On estime qu'environ 60% des éléments radioactifs, donc le césium, transportés par le nuage, tombèrent sur la Biélorussie, polluant un quart de la surface du pays. Et si la météo n'y est pas étrangère, c'est aussi et surtout car les autorités soviétiques d'alors ont ensemencé les nuages pour provoquer de la pluie et stopper l'avancée du nuage radioactif en direction des régions les plus peuplées et surtout en direction de Moscou. Ensuite, c'est l'Ukraine et la Russie, bien sûr, qui furent très touchées. Mais d'après les mesures de taux de césium faites en 86, c'est toute l'Europe, donc le Nord, l'Europe centrale, jusqu'aux pays du sud de l'Ukraine, donc la Grèce, qui furent touchés.
On parle beaucoup des conséquences mortelles dues à l'explosion, à la radioactivité. Quel est donc le bilan humain de la catastrophe de Tchernobyl ?
Donc, selon un rapport de l'ONU de 2008, 60 personnes seraient mortes des conséquences directes de la radiation. Cependant, cela ne prend pas en conséquence tous les décès survenus après parmi les liquidateurs, les décès dus au cancer parmi les populations exposées ou dus à l'intoxication par l'eau à la nourriture, ainsi que les fausses couches et les malformations des enfants qui sont nés après l'accident. Dans toutes les régions affectées, une importante augmentation des cancers, en particulier de la thyroïde, mais aussi des maladies respiratoires, nerveuses et sanguines ont été observées. Malheureusement, comme il est pour le moment impossible, d'après les rapports des organisations internationales, de déterminer une corrélation entre ces morts et la catastrophe de Tchernobyl, celles-ci ne sont pas prises en compte. Par contre, certaines autres études, dont une publiée par le prestigieux journal de la New York Academy of Science, estiment le nombre de victimes à environ 1 million.
Alors, 29 ans après, qu'en est-il de la situation ? Et Sarah, est-ce que vous pensez que le conflit ukrainien doit-il être un facteur de peur quant à un possible nouvel accident de Tchernobyl ?
Donc, le site se trouve aujourd'hui au cœur d'une zone d'exclusion de 30 km de radius qui est totalement fermée et officiellement inhabitée. Depuis 2011, le gouvernement ukrainien a donné son aval à l'exploitation touristique du site, permettant aux plus aventurés de visiter la centrale. Pour ce qui est de la centrale, les trois réacteurs qui n'avaient pas encore explosé restèrent en activité à cause des problèmes de pénurie d'électricité. Donc le dernier fut en fait fermé officiellement en 2010. Ensuite, le réacteur numéro 4, donc celui qui avait explosé, est toujours enfermé sous un sarcophage de béton qui se fissure et menace de s'écrouler. En fait, le nouveau système de confinement qui devait être terminé pour la fin 2005 devrait être financé l'an prochain. Au niveau humain, si les coûts sociaux liés aux pensions pour personnes affectées par Tchernobyl pèsent fortement sur le budget ukrainien et biélorusse, ils ne permettent en aucun cas de soulager les difficultés financières occasionnées par les conséquences de l'exposition à la radiation. Quant à la crise ukrainienne, elle ne devrait pas avoir d'incidence autre sur le futur de Tchernobyl que de ruiner le gouvernement ukrainien encore plus qu'il ne l'est déjà et de détourner son attention du problème.
Merci pour votre intervention. Nous allons demander à la technique de nous balancer un son. Nous venons donc d'entendre que l'énergie nucléaire civile est en essor dans plusieurs pays, notamment en Afrique. Néanmoins, les États-Unis et la France restent les plus grands producteurs d'électricité d'origine nucléaire. Mais cette énergie est-elle fabriquée en France? Lotte, je suis à vous maintenant.
En fait, l'énergie nucléaire est une énergie fossile qui dépend de l'uranium exploité tout autour du globe. Les principaux pays exploitateurs d'uranium sont le Canada, l'Australie, le Kazakhstan, la Russie, le Niger, la Namibie, l'Ouzbékistan et les États-Unis. De nos jours, on estime que les gisements d'uranium dans la Terre s'élèvent à environ 2,5 millions de tonnes, le plus vaste terrain se situant dans le sud de l'Australie. En France, l'exploitant EDF achète son uranium auprès de l'entreprise Areva, qui entretient des mines d'uranium, notamment au Niger, au Kazakhstan et au Canada. Puisque l'uranium est contenu dans le sol dans une concentration très basse, généralement entre 0,1 et 0,5%, une grande quantité de terre doit être exploitée. En plus, le rendement des centrales nucléaires est plutôt bas, c'est-à-dire que juste un tiers de l'énergie contenue dans l'uranium peut être transformée en énergie électrique. Pour donner un exemple, pour alimenter ces 58 réacteurs, le parc nucléaire français a besoin de 9900 tonnes d'uranium par an. Si on part d'une concentration de 0,2% d'uranium, ça fait déjà près de 5 millions de tonnes de terre à excaver. Il s'agit de chiffres approximés, bien sûr, mais il faut s'imaginer la dimension. Ceci nous rappelle aussi que l'uranium est une ressource fossile qui un jour devra s'épuiser. Selon les calculs de l'association environnementale BUND, ces ressources suffiraient à assouvir les besoins pour les prochains 70 ans. Si tous les projets pour les nouveaux centrales dans le monde se réalisaient, les gisements s'épuiseraient dans 18 ans. L'idée de l'autonomie énergétique de la France est donc un mythe, vu qu'elle doit veiller à son approvisionnement en uranium qu'elle importe en totalité.
Alors, si les risques du fonctionnement des centrales nucléaires sont bien connus, on a tendance à oublier les risques liés à l'exploitation de l'uranium. Prenons l'exemple du Niger. Quel est le rôle d'Areva dans ce pays et comment se produit l'exploitation?
Areva est le propriétaire principal des plus importantes mines d'uranium au Niger. Un exemple emblématique, c'est la mine d'Arlite, dénommée aussi Arevaville. Il s'agit d'une ville dans le désert construite autour de la mine d'uranium. Dans une zone déshabitée avant le début de l'exploitation en 1971, Areva est aujourd'hui employeur principal et propriétaire d'une grande partie des infrastructures comme les hôpitaux. L'exemple d'Arlite montre les conséquences néfastes que l'exploitation de l'uranium a sur l'environnement et la santé des êtres humains. Pour expliquer, il faut d'abord dire qu'il y a deux types d'exploitation, celle à ciel ouvert et celle sous-sol. Pour les travaux sous-sol, le déblai est mis dans des galeries, délaissées qu'on n'utilise plus. Et pour l'exploitation à ciel ouvert, le déblai est mis sur un terril à ciel ouvert. Sur cet énorme terril sont amassées 35 millions de tonnes de déblai et produits chimiques radioactifs sans aucune protection. Notons bien que le déblai contient toujours 85% de la radioactivité du minerai initial. De plus, Areva prélève l'eau des nappes phréatiques et l'évacue dans la rivière proche. Donc toute la zone, l'air, le sol et jusqu'à l'eau sont contaminés. Un autre problème, c'est la baisse de la nappe phréatique. Depuis les débuts de l'exploitation, Areva a consommé autour de 270 milliards litres d'eau. Et dans une région aride, cela renforce la désertification. La désertification, tout comme l'exploitation d'uranium, font qu'il reste moins de surface pour le pâturage. Ceci est particulièrement grave si on considère que la population ne profite pas des devises de l'uranium. Au contraire, c'est l'agriculture qui est la source principale de revenus.
Alors là, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les conditions de travail ?
Quant aux conditions de travail, il faut dire que les mesures de protection sont très insuffisantes. C'est seulement dans les années 80 qu'on a commencé à utiliser des vêtements de protection, mais qui ne sont pas de véritables moyens, vêtements de protection non plus. Aujourd'hui encore, de vieux outils comme des pots pour cuisiner sont réutilisés. Ainsi, des objets contaminés se diffusent.
Alors, est-ce que la radioactivité a-t-elle un impact sur la santé ?
Comme on vient déjà de l'entendre dans ce qu'a dit Sarah, la radioactivité a un très grand impact sur la santé. Elle entre dans le corps humain à travers des particules de poussière radioactive ou alors par le gaz de radon. Ceci peut provoquer plusieurs types de cancers. Dans la région d'Arlit, le taux de cancer est le double de la moyenne nationale, les cancers affectant principalement l'appareil respiratoire. Néanmoins, les médecins des hôpitaux financés par Areva nient l'évidence des cancers causés par la radioactivité et donnent de faux diagnostics aux patients. Comme par exemple, ils prétendent que c'est le sida.
Alors, qui dit jeunesse dit un peu ambiance. Nous allons donc, pour votre plaisir, vous faire écouter ceci.
The prophet is a fool. The spiritual man is mad for the multitude of thine iniquity and the great hatred.
Alors, le président Issoufou du Niger est passé de 5,5 à 12% de taxes de valeur absolue. Pensez-vous que cette revendication a été possible grâce à la compétition des entreprises chinoises ?
Oui, probablement. Mais même si des entreprises d'autres pays interviennent, il faut souligner qu'Areva occupe toujours une position très dominante sur le marché nigérien, qui, selon plusieurs critiques, laisse peu de place pour d'autres investisseurs. Finalement, il faut non seulement dénoncer la pratique d'exploitation d'Areva en particulier. Il s'agit de reconnaître que l'exploitation de l'uranium constitue un danger grave pour la santé, non seulement des travailleurs, et qu'elle n'est pas compatible avec le développement durable.
Alors, on ne peut pas parler d'uranium sans parler de nucléaire en Afrique. Alors, disons qu'en Afrique, de nombreux pays connaissent actuellement de graves crises énergétiques. Pour combler les déficits en électricité, plusieurs d'entre eux veulent se tourner vers le nucléaire. Mais pour pouvoir profiter de cette énergie, ils devront composer avec de nombreuses difficultés. En 2011, IPS Interpress Service avait révélé le calendrier des pays d'Afrique souhaitant se doter de centrales nucléaires, en notant que de plus en plus, de pays souhaitent adopter cette solution. Le Ghana a annoncé par l'intermédiaire de son ministre de l'Énergie et du Pétrole que l'heure est venue d'envisager sérieusement le nucléaire. D'après lui, la demande croissante en électricité nécessite même des mesures accélérées pour se lancer dans cette production pour satisfaire les besoins en électricité du pays. 4000 mégawatts nucléaires sont prévus pour 2018. Pour le Nigeria, la demande en électricité conséquente, 20 000 mégawatts de besoins électriques évalués d'ici 100 ans. Inquiète le gouvernement, d'après la Commission nigériane de l'énergie atomique, NAEC, 1 000 mégawatts sont déjà prévus pour 2020. au Ghana et au Nigeria, des études sont en cours pour installer le nucléaire dans la production d'électricité. Cependant, aucun des deux n'est producteur d'uranium, la matière première indispensable au nucléaire. En revanche, le Niger est un important producteur d'uranium, 4% de la production mondiale et le seul pays producteur de l'Ouest africain. Il a plaidé en 2012 pour une régionalisation du nucléaire avec la construction de centrales où seraient impliqués des pays membres de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, soit 15 pays et 350 millions d'habitants. Le Maghreb voudrait pouvoir se doter de plusieurs réacteurs nucléaires. Cependant, cette région connaît de nombreuses difficultés pour installer les centrales. Leur implantation au nord du continent africain est en effet difficile en raison de nombreuses zones sismiques ou à risque qui compromettent la sûreté nucléaire. La disponibilité des ressources nucléaires, comme l'eau ou l'uranium, fait également défaut au Maroc. Il est envisagé de construire deux réacteurs de 1000 MW pour une mise en service en 2022 et en 2024. Le projet date initialement de 1984, mais il a été reporté plusieurs fois. Et en Algérie, la construction de deux réacteurs nucléaires est annoncée depuis 2008. Le projet a été ralenti en 2011 à cause de plusieurs difficultés, mais aujourd'hui, le projet se concrétise puisque le gouvernement algérien a mis en place un institut du génie nucléaire chargé d'étudier les conditions de faisabilité de la première centrale nucléaire du pays. Le premier réacteur d'une puissance de 1000 MW devrait être mis en route pour 2025 et le second pour 2030. L'Afrique du Sud possède la première et actuellement la seule centrale nucléaire du continent, la centrale de Québec, fournie il y a 30 ans par le français Framatome, absorbée depuis par Areva. Pourtant, le pays a affiché son intention d'ouvrir une nouvelle centrale afin d'atteindre les 9,6 gigawatts de production d'énergie nucléaire d'ici 2030. Cette nouvelle centrale permettrait de réduire la fréquence de nombreuses coupures d'électricité qui touchent les grandes villes sud-africaines. Ces coupures ralentissent également l'extraction minière sur laquelle l'économie sud-africaine repose en grande partie. Voilà, le temps qui nous est imparti tire à sa fin et Jean-Baptiste a prévu une musique pour vous et il tient vraiment à ce que vous l'écoutez. Et pour ça, je vous dis ciao et à la prochaine.
Yeah.